19h20. Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir et bienvenue sur Beurre FM. Nous sommes le lundi 6 juillet et vous écoutez Time Sport comme chaque soir de 19h à 20h. Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas Bilal Nelman qui présente, c'est Simon Balachev. C'est presque pareil, un peu plus de cheveux, mais bon, c'est pas grave. Chers auditeurs et chères auditrices, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'antenne avec nous en composant le 01 53 48 3000, mais également sur Twitter en bombardant le hashtag Time Sport. Au menu du soir, nous retrouverons Antoine Griezmann, auteur d'un match plein et d'un but face au sous-marin jaune de Villarreal. Puis nous irons prendre le pouls d'un autre attaquant français, plutôt en forme ces derniers temps, Anthony Martial. Nous allons, nous jouerons les conseillers Pôle emploi un petit peu pour tenter de deviner qui d'Unai Emery, de Mauricio Pochettino et Laurent Blanc trouveront un banc le premier. Et puis un saut en Serie A où la Juve creuse l'écart avec la Lazio. Et enfin, nous terminerons en Autriche pour la première étape du championnat du monde de F1 qui se tenait ce week-end. Allez, roulez jeunesse, go go Time Sport.
Time Sport.
Plateau de choix ce soir, mes amis, je serai entouré d'un taulier, monsieur Yacine Bouali. Comment ça va, Yacine ?
Bonsoir Simon, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver par cette journée ensoleillée. Juste un petit message à Farid Rouas. Quand j'ai vu le fil conducteur, j'ai dit ce mec-là, il travaille pour Didier Deschamps, il est en train de chercher un avant-centre pour l'équipe de France. Après Griezmann, ça sera Martial. Mais bon, je lui rappellerai juste que le plus grand avant-centre du monde, il est français et il s'appelle Karim Benzema.
Voilà, donc on aura tenu moins de 2 minutes. Je ne sais pas depuis combien de temps l'émission est lancée pour avoir lancé le mot Karim Benzema. Yacine est sur le plateau, on l'aura compris. Autour de cette table ce soir, nous avons également Mickaël Ruffet. Comment vas-tu ?
Bonjour Simon, bonjour à tous. En la forme et toi ?
Ça va très bien, écoute, en effet, comme le disait Yacine, le soleil et la chaleur sont de retour. Et toi, Hervé Dibi, tu es là aussi, comment vas-tu Hervé ?
Exactement, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, juste un petit mot pour Yacine, le meilleur avant-centre du monde n'est pas Karim Benzema, mais bien Lewandowski.
Allez, on déplaise à Yacine. On a le débat avant le débat, on a le premier sujet avant le premier sujet. Mais je vous coupe, messieurs, parce qu'on va partir parler d'un autre attaquant, d'ailleurs. Première escale en Catalogne, d'ailleurs, c'est parti, c'est le ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et oui, nous allons parler d'un autre attaquant français que Karim Benzema. Et il s'agit de ce bon vieux, notre cher Antoine Griezmann, numéro 7 de l'équipe de France, qui a, avec son Barcelone, vaincu Villarreal, quand même le 5e de Liga, c'est pas rien. 4 buts à 1 au Madrigal, là-bas, avec des buts d'Ansu Fati, de Griezmann, donc de Suarez. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Un CC de Torres. Et un but de Gérard Moreno pour Villarreal. On se tient quand même 2 passes D de Messi, dont une pour Griezmann. La mésentente n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Tiens, lapsus révélateur, je dis la mésentente. Messieurs, ça y est, c'est bon. On passe l'éponge pour Griezmann. Il a marqué, il a fait un gros match. Tout va bien sous le meilleur des mondes. Mickaël, t'en penses quoi ?
Enfin, oui, un gros match d'Antoine Griezmann. Ça faisait un bon moment qu'on l'avait pas vu comme ça tenter son but est vraiment magnifique. C'était globalement un super match entre Villarreal et le FC Barcelone. Le Barça aussi a fait vraiment une prestation de très haut niveau. On a vu Messi en jambes, on a vu Suarez, comme l'a dit Yacine, ça faisait un moment qu'il avait pas marqué, un but magnifique. Donc oui, je pense que c'est peut-être parler d'un tournant, ça serait un peu gros, sachant que c'était compliqué pour lui depuis un long moment pour Antoine Griezmann, mais ça va le mettre en confiance pour la suite, je pense.
Est-ce que ces derniers matchs accrochés qui a laissé le Real un petit peu prendre les devants pour eux et une grosse option pour le titre, c'est pas fait mathématiquement, mais une grosse option sur le titre, est-ce que le fait de dire un petit peu au revoir au titre pour les Barcelonais, ça les aurait pas un petit peu soulagés, un petit peu libérés?
Ben, je dirais pas, le titre n'est pas encore joué, hein, parce que quand on voit la prestation du Real qui ont gagné vraiment, c'est une victoire tirée par les cheveux, à la limite un petit peu de beaucoup de choses. Le Barça n'a pas encore abdiqué, mais quand on voit la prestation d'hier du Barça, on a trouvé que Kikisien, je pense, a trouvé le mécanisme qu'il fallait. Il a changé un petit peu son dispositif tactique pour intégrer Griezmann dans, je pense, dans le meilleur système de jeu, en 4-1-3. Je pense qu'il a trouvé la bonne parade pour le faire jouer. Hier, chaque jour ne ressemble pas à l'autre. La semaine passée, ça a été la polémique. Qu'est-ce qui s'est passé, Griezmann, l'amour, désamour avec Messi. C'est comme tout le monde, quand on entend les gens parler, on a l'impression qu'ils vivent dans le vestiaire du Barça. Oui. Alors que c'est pas vrai. Parce que l'accolade qu'il y a eu entre Griezmann...
Elle avait l'air sincère.
Elle avait l'air sincère. C'est pas, je pense à ce niveau-là, le Barça, parce que beaucoup de monde, enfin, ils parlent du football, on a l'impression qu'ils partagent les secrets de Messi ou de Griezmann ou du président du Barça.
Pour tous les clubs, Yacine. Hein? Pas que le Barça, c'est pour tous les clubs.
Ah oui, il n'a pas dit le contraire, mais c'est vrai que c'est un fait pour le Barça, par exemple.
C'est le Barça, c'est le plus grand club du monde, qu'on le veuille ou pas, avec le Real de Madrid. Et hier soir, je pense qu'ils ont donné la réponse à beaucoup de monde. Quand ces grands joueurs, parce que quand on ne le veut pas, parce qu'à un moment donné, on a tiré à boulet rouge sur Griezmann, est-ce que c'est un joueur fini, est-ce qu'il devrait partir? Je ne pense pas que le Barça l'a fait venir avec cette somme, parce que c'est une énorme somme sur un joueur. Je pense que le profil qui fait son jeu correspond énormément à la philosophie de jeu du Barça. Hier soir, ils ont battu quand même Villarreal, qui est quatrième.
C'est pas rien, cinquième maintenant, du coup, avec cette défaite.
C'est pas rien du tout. Et quand on voit tous les joueurs qui ont marqué, le jeune Fatih, Mourinho, on a l'impression peut-être que cet entraîneur est en train de trouver la solution pour la suite.
Hervé Grimace.
Aujourd'hui,
Hervé Grimace, c'était pas tout à fait d'accord avec ça.
Le titre n'est pas encore joué.
Le titre n'est pas joué, mais pour en revenir à Griezmann, et je pense que tu avais un mot sur Setién à dire, et pas Quique et Sien, comme l'a dit Yacine.
Setién.
C'est avec l'accent algérien.
Non, mais Setién. Je parle espagnol.
D'accord. Bon, c'est Quique et Setién en tout cas. En tout cas, voilà, pour revenir à ce que tu disais, la semaine dernière, on tirait à boulet rouge, pour reprendre une expression sire à Yacine, sur Quique Setién, et aujourd'hui, on dirait que c'est le plus grand mage, le plus grand sage de l'histoire du football.
Il a testé un dispositif. Ce n'est pas Zidane, ce n'est pas Capello. C'est juste, il a trouvé la bonne formule.
Voilà. Il semble avoir trouvé la bonne formule.
Voilà, pour faire jouer son équipe.
Ce qu'il a tenté hier, c'est qu'il a tenté de mettre un milieu en diamant, entre guillemets, avec un 4-3-1-2, avec trois milieux, entre guillemets, assez récupérateurs, avec un gros volume de jeu, en l'occurrence Busquets, Sergio Roberto et Vidal, Messi un peu dans une position d'électron libre, qui l'occupe déjà depuis très longtemps, et Griezmann était beaucoup plus axial. Mais pour revenir à ta question, Simon, je pense que ce but, sa prestation d'hier, ne doit pas masquer les lacunes qu'il a quand même affichées pendant 9 mois. Pour moi, ce match d'hier, c'est juste un casse-misère. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ok, il a fait un bon match. Je l'ai beaucoup aimé, son influence, sa participation dans le jeu. Je trouvais qu'il était beaucoup plus en jambes, qu'il était beaucoup plus trouvable. Je trouvais qu'il se situait mieux dans l'espace. Après, moi je reste.
J'ai l'impression qu'il y a une confiance entre lui et les autres joueurs. On lui donne plus après, le ballon. Après, il a besoin de ballon, Griezmann, pour jouer.
Après moi je reste quand même sceptique. Pendant l'absence de Suarez, on a vu Griezmann qui jouait en 9. Ça n'avait pas marché. Donc, c'est moi je pense que.
Il a eu une période en février où il a pas mal marqué quand même. Hein.
Au final, ses stats sont pas si mauvaises que ça sur la saison.
C'est ça.
Comme Suarez. Je pense que Messi a besoin d'un avant-centre comme Suarez qui arrive à créer énormément d'espace.
Ouais, mais après Suarez est très dans une pente descendante. Mais au-delà, Hervé, de ce que tu disais pour Griezmann en dents de scie depuis le début de la saison, c'est comme le Barça en général. Le Barça depuis le début de la saison, c'est un bon match et trois matchs plutôt moyens voire médiocres au final, en tout cas dans le contenu. Donc dire Griezmann n'a pas été bon, oui, comme beaucoup de joueurs du FC Barcelone depuis le début de la saison.
Non, mais je dis pas le contraire. C'est juste que là, le thème du débat, il est orienté sur.
Oui,
sur,
c'est clair,
sur
je comprends.
Griezmann. Ouais. Tu peux mettre plein de joueurs dans le même sac. Moi, je dis juste que à l'heure actuelle, pour moi, l'étape Griezmann au Barça, pour moi, c'est un échec. Pour moi, d'accord. C'est un fiasco. Ouais. Quand on voit
buts en 29 titularisations.
Voilà, quand on voit l'investissement qui a été réalisé, quand on voit toute la caisse de résonance, toute la publicité qu'il y a eu autour de son transfert, et que tu vois son rendement depuis le début de l'année.
Et lui, comment il est parti de l'Atlético Madrid aussi.
C'est insuffisant.
Ça fait tâche.
C'est pas ça que l'Atlético Madrid, c'est arrivé, ça arrive, ça arrivera. On va pas non plus.
Non, mais c'est vrai que ça met en exergue sa saison, parce qu'il a vraiment tout fait pour quitter l'Atlético Madrid. Il y a eu des bisbilles entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone au niveau du paiement, etc. Donc, en plus, vu ce qu'il démontre sur cette saison-là, c'est vrai que ça fait vraiment tâche.
C'est dommage parce qu'il avait créé quelque chose à l'Atlético. Mais là, allez, on va quand même parler de son futur. Là, ces dernières semaines, on le donnait partant en échange à la Juve, le PSG peut-être également en échange avec Neymar et puis je ne sais pas qui. Maintenant, du coup, tout va mieux. Ça y est, c'est de nouveau le copain de Messi. Il a marqué des buts, il joue bien.
C'est le revers de la médaille en fait, du fait de travailler dans les médias, c'est que Parfois on manque de nuances. Il y a une semaine, deux semaines, on disait Griezmann est fini, tout ça, et aujourd'hui il semble que voilà, il est sur la voie de la rédemption. Encore une fois, moi je reste.
Celui qui dit un joueur de 28 ans est fini à niveau de Griezmann, je pense que
c'est compliqué.
Je reste sur ma position. Pour moi, je pense que son avenir ne devrait pas s'inscrire en Catalogne. Pour moi, c'est un super joueur. Pour moi, il est dans les meilleurs à son poste. Mais je reste sceptique sur son intégration sur le jeu du FC Barcelone. C'est mon avis. Après, ils se discutent.
Si on te donne la liberté, tu le mettrais où?
Comment?
Si on te donne la liberté de choix, de le mettre quelque part, tu le mettrais où?
Moi, je tenterais un échange Lautaro Martinez, Griezmann.
À l'Inter.
J'aimerais bien le voir avec Lucas.
Ah, j'aimerais bien ça. Ah, ça aurait du chien, ça. Hein.
Griezmann, il a besoin de jouer avec avec une pointe, avec un mec vraiment en pivot, comme il le faisait à l'Atlético Madrid avec Diego Costa / Morata, comme il le fait en équipe de France. Je pense qu'il a vraiment besoin de ce type d'animation autour de lui, et je pense que l'Inter le convaincrait.
Et du coup, à l'inverse, tu vois Lautaro au Barça?
Moi, je le vois complètement Barça. Oui. C'est vrai que depuis la reprise post-Covid, il a un peu du mal. Il a mangé la feuille de match hier contre Bologne. On a l'impression que c'est un peu en train de lui manger la tête, mais pour moi, je pense que pour l'avoir souvent vu jouer, pour avoir souvent vu son association avec Messi sous le maillot de l'Albi Célesté, je pense que c'est un joueur dont je suis presque persuadé qu'il triomphera au Barça.
Malheureusement, les transferts et ça ne se fait pas comme ça. Je pense que son avenir va s'inscrire avec le prochain entraîneur qui va.
C'est ce que j'allais dire.
C'est ça.
Ce que j'allais dire.
On ne sait pas aujourd'hui qui sera le prochain entraîneur.
Exactement. On a dit aujourd'hui
qui va sortir, parce que à ce niveau-là, ça parle temps de jeu, comment on va jouer. Parce que à ce niveau-là, Griezmann est capable d'exiger beaucoup de choses, comme le fait Messi, comme le fait d'autres joueurs.
Il peut.
Donc oui, bien sûr.
Non mais c'est vrai, parce que là on a parlé de Griezmann, ses éventuels transferts, mais on a parlé avant de Quique Setién. Rien n'affirme que Quique Setién, son avenir se profile du côté de la Catalogne, du côté de Barcelone.
Ah oui,
quand même. Non, justement, j'ai plutôt l'impression que c'était un choix de transition, Quique Setién. Donc à voir s'il va continuer l'année prochaine, ce qui est pas sûr, et voir s'il est remplacé par un coach, voir ce que ce coach-là va vraiment mettre en place sur la saison prochaine.
Un coach en quatre lettres. X.
Xavi.
Xavi a été prolongé hier.
Gaïa.
Ah oui.
J'aimerais beaucoup.
Non, Xavi a été prolongé dans son club au Qatar. Je pense qu'il en a encore pour 2 saisons. Ça va être compliqué pour lui il le sait. C'est pas
il a une clause qui le permet de pouvoir.
Oui,
aller au Barça
mais je pense que ça va être compliqué pour lui de venir à cet instant. Je pense qu'il a besoin d'un peu plus de
mais
temps.
Les joueurs le veulent, Yacine. Messi le veut, Piqué le veut.
Et
je suis persuadé que peut-être lui arriverait à parler à Griezmann. Ouais. Messi arrivera à le fondre dans le groupe catalan.
Ouais, on verra. Peut-être il y a Guardiola qui pourrait faire son retour à Barcelone aussi. On ne sait pas.
Non, mais parce qu'il y a le changement. Il y a l'entraîneur. Il y a même plus profond que ça, Michael. Il y a le président. Parce qu'il va y avoir une élection prochainement, et c'est le président carrément qui va changer.
Au Barça, je pense, pour répondre un peu à ta question, Simon, ce qui pourrait arriver de mieux au Barça cette saison, c'est de faire une saison blanche. C'est de perdre la Liga, c'est de se faire éliminer en 8e de finale contre Naples. Ça servirait de prétexte, entre guillemets. Ça servirait de prétexte, entre guillemets, pour faire une véritable révolution au sein du Barça, en commençant par le haut de la pyramide, le président, en suivant par la cellule sportive et en terminant par les joueurs. Et même, au-delà même des joueurs, de l'identité de jeu. Je pense que le jeu du Barça, ces dernières années, tend à devenir un peu désuet, tend à devenir de plus en plus caduque, de plus en plus prévisible, stéréotypé. Et je pense qu'il faut ramener un vent de nouveauté dans cette équipe.
Barcelone, année zéro. Anas nous a rejoint autour de ce plateau. Ne fais pas cette tête-là, t'es un peu
fatigué.
C'est pas grave. C'est pas grave, on t'en veut pas.
J'ai couru.
Dis-nous, Anas, Griezmann, ce match face à Villarreal, ce but, cette animation, cette performance, ça y est, il est relancé au Barça?
Est-ce qu'en un match, on peut relancer un joueur? Est-ce que grâce à ça, il va changer son image? Je pense pas. C'est pas un match qui va faire que sa saison sera rattrapée ou quoi. Moi, je trouve que Barça, c'est une erreur de recrutement. Ce match-là ne cachera pas le reste de ce qu'il a fait. Et Barça, le Griezmann doit partir du Barça, un peu, c'est tout.
Ah, donc, vous ne voulez pas lui donner une seconde chance, même avec un nouvel entraîneur, Michael?
Il a dit, ne sont pas les directeurs sportifs du FC Barcelone.
Bien sûr. Michael, avec un nouvel entraîneur, un entraîneur qui saurait faire jouer Griezmann avec Messi et compagnie.
Et aujourd'hui, il y a une maladie dans le football, c'est pas que les journalistes ou les observateurs en général, c'est qu'on a tendance à avoir du mal à prendre du recul. et à se projeter ou à se rappeler, on est justement
en train de prendre du recul.
Non, mais non, justement, tu peux pas dire qu'après même pas une saison avec en plus la période de coronavirus, tu peux pas dire c'est fini Griezmann ou FC Barcelone. Il faut voir.
Je suis d'accord, c'est vrai, mais le problème c'est qu'on a vu avant le Covid, on a vu après le Covid, et on a le problème ce qu'on a vu. Bah c'est justement, on parle d'un match,
la période janvier février. Le joueur qui marque le plus au Barça, c'est Griezmann.
Griezmann, exactement.
Mais il a marqué
9 buts.
Exactement. D'accord, ok. Et c'est ce qu'on lui demande ? Est-ce qu'il arrive à jouer avec Messi ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, ils sont premiers du classement ? C'est ce qu'on leur demande. On leur demande de rattraper le.
Non, en fait.
Griezmann, il arrive à jouer avec Messi.
Bien sûr.
D'accord.
La preuve hier, ils ont joué ensemble.
La preuve hier. Ah oui, c'est, tu l'as dit, Yacine. C'est hier. Oui, uniquement hier. Mais avant, il n'y avait pas de ça.
Non.
Le problème, c'est que même quand il y avait des couloirs vides.
Griezmann était exilé sur le côté gauche.
Mais bien sûr, même quand Messi avait la balle, il le voyait, il ne lui faisait pas la passe.
C'est pas la faute à Griezmann.
C'est ça le problème. Bah, si, indirectement. À cause de son communiqué l'année d'avant, ça a posé problème. Et voilà.
Tacticien. Hervé,
je comprends pas la clémence qu'on a envers Antoine Griezmann.
Ouais, grave.
Pas seulement en France, même en Espagne.
C'est pas une clémence. On a été
super dur avec Coutinho, alors que je l'ai vu faire des prestations moins fades, moins monotones que Griezmann. Ah,
exactement.
Mais Griezmann, sous prétexte qu'il est français, qu'il est champion du monde, on devrait tout lui pardonner en fait.
Parce qu'il a une bonne tête, il est gentil, il passe bien. Mais faut pas oublier. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que le problème de Griezmann, il a été recruté pour combler le manque de Neymar. C'est ça le problème. Et en fait,
c'est pas du tout le même profil.
Mais qu'on le veuille ou non.
Messieurs,
s'il vous plaît.
Vas-y, Anas.
Yacine, bien sûr que si. Et on avait le MSN Neymar Suarez Messi. Ils ont essayé avec Coutinho, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, on va retenter avec Griezmann. Et au début, le Barça était pour.
Et tâtonne dans le football.
Non. Bien sûr.
Le Barça est tâtonne.
Bien sûr. Le Barça, c'est le grand Barça d'aujourd'hui ou pas, Yacine?
Le club de CFA.
Vu les prestations, on dirait. Mais le Barça d'aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même. C'est tout. Faut le dire, faut l'assumer. Le Barça, c'est pas un grand Barça. C'est un Barça moyen.
Est-ce que c'est la faute de Griezmann?
Non, j'ai pas dit que c'est la faute de Griezmann. Non, bien sûr. Non. Le Barça n'est pas le. Oui, mais bizarrement, quand Neymar part, ça casse le trio. Oui, mais Neymar n'était pas là.
Non, oui.
Mais c'est pour ça que je dis.
D'accord, oui. C'est beaucoup de joueurs qui ont été broyés par Arda Turan, Coutinho.
Après le départ de Neymar. Après Neymar, il y a eu Coutinho. Coutinho, malheureusement, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, bon, Griezmann, on va prendre Griezmann. Au début, ils voulaient venir. Mais bien sûr que oui.
Ça se passe comme ça.
Ils me l'ont dit hier au téléphone.
Ah, vous te dites que
bien sûr, ils m'ont appelé. Évidemment.
Canal Anas.
Exact. Et du coup, le problème, c'est que ça n'a pas marché. Et on le voit à l'heure actuelle.
C'est Bartolomeo qui t'a appelé ou c'est Abidal?
Yacine, l'oublie.
Abidal. Abidal. Parce que je l'apprécie.
Vas-y, Hervé, mais dis-moi, qu'est-ce qui vous fait que votre intime conviction, c'est qu'il ne faut pas lui donner de seconde chance au Barça?
Cette saison montre que ça ne sert à rien pour Griezmann de rester au Barça.
C'est une erreur de casting.
Mais évidemment.
Comme l'a dit Anas, pardon. Quand tu vois Dembélé, tu vois Coutinho, tu vois Griezmann maintenant, tous ces joueurs ont été achetés pour combler le départ de Neymar.
Hein,
c'est purement politique.
Évidemment.
En Espagne, les présidents, c'est pas comme en France. Ils ont des mandats, ils sont élus par les socios. Et si tu veux avoir une bonne cote de popularité,
exactement.
En Espagne, dans ton club, si tu veux être bien perçu par tes socios, tu dois entre guillemets faire venir le plus de stars possible. Bon, moi, je pense que Griezmann,
faut créer du spectacle. Il faut qu'ils viennent, ils ne viennent pas au stade pour rien.
Pour moi, Griezmann, c'est un écran de fumée.
J'ai toujours pas l'impression que c'est la politique du Barça. Hein.
Pour moi, Griezmann, il a été contracté pour masquer la débâcle de Liverpool.
Ouais, tout à fait.
L'année dernière.
Je cite beaucoup Philippe Coutinho.
C'est comme ça que ça se prononce, les gars. Hein. Philippe Coutinho.
Non, mais il fait deux saisons au Barça. Et il a eu aussi sa seconde chance.
Oui. Ouais. Alors mais le problème, est-ce que sa première saison était identique à la première saison de Griezmann?
Moi, je suis globalement d'accord avec ce que vous dites. 22 matchs, 10 buts. C'est sa première saison, mais je crois qu'il arrive au.
Il fait pas un an.
Par contre, la deuxième, il fait 53 matchs, 11 buts.
Moi, je suis globalement d'accord avec vous. Moi, tout ce que je vous reproche.
53 matchs, 11 buts, c'est pas mal.
Bien sûr, c'est pas mal.
Après, mais c'est Messi. Bon, messieurs.
Vous êtes trop. Mais non, il faut être catégorique sur ça. Il n'y a pas sa place et puis c'est tout.
On change un petit peu. Merci à tous. On retrouve Time Sport dans quelques instants après la pub. A tout de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et non, ce n'est toujours pas Bilal Nelman, c'est toujours Simon Balachef, mais vous, vous êtes de retour à l'écoute de Time Sport sur Beurre FM de 19h à 20h, avec ce soir Hervé, Yacine, Anas et Mickaël. Autour de moi, sans oublier notre réalisateur Maximo Yanis. On passe des Ramblas au Théâtre des Rêves, bienvenue à Manchester, c'est l'incroyable mais vrai, messieurs.
Time Sport.
Et oui, on file tout droit à Manchester, mais alors United, hein, on va chez les Rouges,
les Reds,
chez du côté d'Hervé Déby. Mais ça, c'est le grand mystère. Quel est le club d'Hervé Déby? On ne sait toujours pas. Il y a les bookmakers planchent sur le sujet, mais on ne sait toujours pas. Encore est-il que du côté de Manchester, il y en a un. En plus du TP Mazembe.
Du tout puissant Mazembe.
En tout cas, Manchester, il y en a un qui flambe. C'est pas Hervé Déby. Mais c'est Anthony Martial. Anthony Martial, ça va bien en ce moment pour lui. Benzema et persona non grata pour Deschamps. Giroud, bah, il est volontaire, le Giroud, notre Olivier Giroud, mais il est toujours discuté. Est-ce que la solution ne s'appellerait pas en pointe de l'équipe de France, Anthony Martial? Messieurs.
Encore un peu pour le niveau international. C'est un bon attaquant, peut-être dans les top, dans le top 30, top 35 peut-être.
En 40.
Mais de là à le voir titulaire à la pointe de l'équipe de France, je pense qu'il a quand même encore une voire deux marches encore à franchir.
Facilement.
Anas, on a entendu ton souffle jusqu'à Kinshasa d'ailleurs.
Exactement. Je comprends pas qu'on puisse encore parler de Martial en équipe de France. Je trouve qu'il est pas.
Il n'est pas assez consistant.
Non, franchement, mais on parle toujours de Giroud est en dessous, etc. Mais pour moi, là, justement, Giroud, c'est la F1.
On est reparti sur l'automobile.
Martial et le kart. Donc, qu'on le veuille.
Giroud,
à moteur. Alors, à moteur. Mais le truc, c'est que le problème, Giroud a une Coupe du Monde, Martial n'en a pas. Merci.
Vous vous souvenez de quel âge il a? Est-ce que vous vous souvenez de l'âge? Est-ce que vous nous souvenez de l'âge d'Anthony Martial?
Il doit avoir 23 ans.
24 ans.
24 ans.
C'est quand même très jeune. Très jeune.
Alors là, je viens d'entendre Giroud Formule 1 et Martial le karting.
La trottinette.
Je pense que je vais demander d'arrêter le football pendant 20 ans.
Ouais, non, là, c'est.
Déjà, bah oui, hein, c'est Covid 25. Mais franchement, mon cher Anas, c'est pour toi Giroud et la Formule 1 et Martial. Et le karting, je pense que
trottinette.
C'est une offense au football, au
pas
beau jeu,
une offense au football,
au talent.
Pourquoi? Quel talent?
Au talent, et je pense qu'il ne joue pas du tout dans la même cour. Peut-être Giroud.
Ouais, c'est vrai.
C'est compliqué.
Je suis désolé, mais déjà
ça n'a rien à voir. Déjà, les deux profils ont absolument rien à voir. Après, deuxièmement, Martial n'est pas pour moi un pur neuf, comme tu peux parler d'un Benzema. Pour moi, c'est un mec qui peut se balader sur le front de l'attaque, etc. Après, que vous dites que Martial n'a pas le niveau international, je suis pas d'accord.
Certes,
il a pas beaucoup d'expérience.
Il n'a pas de
match référence avec l'équipe de France. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est un mec qui est encore très jeune.
Mais pourquoi justement il n'a pas de match référence avec l'équipe de France? Parce qu'il est pas sélectionné.
Déjà dans son profil, il y en a eu beaucoup comme ça. Équipe de France. Mbappé, Coman, Martial, on a vu Lacazette.
Et Martial, je suis d'accord, c'est le même profil.
C'est un peu les mêmes profils. Et Deschamps a préféré miser sur d'autres joueurs plutôt que Martial. Aujourd'hui, Martial à Manchester, il a quand même beaucoup plus de bons que de mauvais. Et il faut attendre de voir ce qu'il peut donner. Moi aussi, j'ai envie de le revoir en équipe de France. Et je pense qu'il a le niveau international, Anthony Martial.
J'ai entendu Martial, etc. Pouf, Mbappé. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas être compliqué de comparer tout le monde à Mbappé? Ça n'a aucun rapport. Anthony Martial. Bah oui, mais là, ça n'a rien à voir. Tu tombes pas sur un Pelé ou un Messi toutes les décennies. Mbappé actuellement, c'est à peu près ça. Donc voilà, on a la chance de l'avoir, mais ça n'enlève pas qu'Anthony Martial a un très bon niveau.
Mbappé, c'est l'étalon d'or aujourd'hui. Tout le monde se compare à tous les jeunes.
Non, mais parce qu'on parlait de l'âge. C'est pour ça que je.
Mais c'est pas comparable.
Quand on parle de Martial, on a l'impression qu'il joue en division 5 en Angleterre. Il joue en Manchester United quand même. Il joue dans une équipe de Manchester. Il reprend des joueurs à Manchester United.
Manchester
est titulaire indiscutable. Il a vécu quand même des périodes assez difficiles. Lui aussi, il a été blessé. À un moment donné, il était titulaire en équipe de France avant sa blessure. Et aujourd'hui, il revient en forme. Et c'est tant mieux pour Deschamps, qui va avoir le choix du roi, hein, de pouvoir composer son 11.
C'est intéressant ça. Attends, Anna. Tu parles de Didier Deschamps. Beaucoup de D. Tu parles de Didier Deschamps. Didier Deschamps, on le sait, c'est quelqu'un qui aime composer des collectifs. Alors que Martial soit le plus fort ou pas, etc. Est-ce que la question question, c'est pas plutôt qu'il se fonde vraiment dans le collectif équipe de France.
C'est pas question de fort ou pas, c'est d'avoir, c'est dans une compétition X ou Y, avoir des joueurs qui sont en forme à cette période bien définie. Aujourd'hui, Martial se porte bien. Qu'est-ce qu'on en sait?
Il a fait deux matchs, Yacine.
Dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois. Après la question qui a été formulée dans le conducteur, Martial, le numéro 9 de l'équipe de France, je pense que moi, non. Il n'a pas le profil d'un avant-centre. C'est pas un attaquant libre, mais c'est pas un avant-centre.
Mais pourquoi on change Hervé?
Pour moi, Martial, comme je le disais tout à l'heure, c'est un bon attaquant, c'est un très bon attaquant. Pour moi, il est dans le top 30, top 40 européen. Mais pour moi, c'est pas un grand attaquant. Pour moi, c'est pas.
Pas encore.
Si, il fait pas partie de la crème de la crème.
En pour plus, moi, on parle de l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Hein. Voilà. C'est pas n'importe quelle.
Pour moi,
équipe,
il a pas encore la consistance, le niveau pour jouer numéro 9 titulaire
c'est,
en équipe.
C'est Lewandowski qui a le meilleur attaquant du monde.
Pour moi, oui. Pour, voilà, c'est mon avis, c'est l'avis quand même de beaucoup de ouais, beaucoup de personnes.
Il y a Suarez aussi.
Suarez est quand même sur la fin.
Très très.
On revient sur Martial.
Pour revenir sur Martial, voilà.
Mais franchement, moi, je préfère Martial que Lewandowski.
Okay. Vraiment oh, attendez. On laisse Hervé terminer. Parce que là, il y a eu un scud. Là, c'est celle-là, c'est une bombe. Ça, le plateau a vibré.
Je vais même pas répondre. En fait, je vais même pas répondre. C'est une attaque gratuite. C'est une attaque gratuite de la part
Hervé, termine.
Juste pour terminer sur le sujet de Martial, parce que honnêtement, il n'y a pas non plus mille choses à dire. C'est un bon joueur qui a été transféré à la surprise générale de Monaco à Manchester United. Pour moi, c'est un joueur en devenir, mais qui doit gagner en consistance, maturité. En maturité, en efficacité. D'accord. Je l'ai pas encore vu faire une saison pleine, une saison aboutie. C'est un joueur un peu d'à-coup. Il te fait trois bons mois, puis après il se blesse. Après il fait deux mois un peu médiocre. Puis après il plante quelques banderies. On le remet encore sur le devant de la scène. Mmh. Pour moi, c'est un joueur qui doit encore s'aguerrir. Dans un an, dans deux ans, quand Giroud a pris sa retraite. Pourquoi pas
regarder le cas.
On fera un leader d'attaque, mais pour l'instant.
C'est pas un neuf en fait. J'ai du mal à le voir en vrai neuf.
Pour l'instant, c'est un joueur qui, pour moi, n'a pas encore sa place dans les 23.
Mmh. Alors du coup, attendons un peu. C'est ça qu'il faut voir. Peut-être qu'après. Anas, du coup, alors Benzema. Donc on l'a dit, c'est compliqué. Giroud, il commence à être un petit peu âgé, et puis toujours aussi discuté. Martial, pas encore là. Or c'est qui le neuf idéal, messieurs? Qui est le neuf idéal?
Je voulais rejoindre. C'est Mbappé.
Ouais, pour moi, c'est pas un Mbappé, exactement. C'est pas la question.
Il a les compétences.
Pour moi, Mbappé. Attends. Pour moi, Mbappé me fait penser à Thierry Henry. Thierry Henry, quand il a commencé à Monaco, il jouait pas en pointe. Il jouait un peu sur le côté. Mm-hmm. Il avait un peu cette position un peu de faux ailier qui rentre un peu dans l'axe. Mbappé, il a un peu le même profil, un peu les mêmes caractéristiques. Pour moi, Mbappé, il a tout. Il a tout pour jouer, pour devenir l'un des meilleurs neufs de sa génération.
Et en plus de ça, Simon, si on regarde bien le cas Mbappé fait à peu près, enfin beaucoup comme Cristiano Ronaldo. Et on voit que Cristiano Ronaldo a commencé en tant que ailier pour finir attaquant.
Il manque trop de
avec le Portugal. Et du coup,
Mbappé manque trop de trucs.
C'est pour reprendre le profil de Mbappé, comme on sait qu'il est très similaire à celui de Cristiano Ronaldo. Enfin, du moins, il essaie de faire comme Cristiano Ronaldo. Ce serait pas étonnant, vu ses capacités, de finir en attaque en équipe de France.
Il y a du vrai. Tu peux le reconnaître, Michael.
Il lui manque quelque chose à Mbappé. Il lui manque encore de l'intelligence dans tout ce qui est appel de balle.
Bravo.
Et il y a un gros problème. Il y a encore trop de déchets si tu le mets en pur neuf. Au Paris Saint-Germain, en pur neuf, ça a quand même été très difficile. Et autre chose, j'ai rarement vu un neuf avec un jeu de tête aussi inexistant.
Mais parce qu'on lui demande pas.
C'est vrai que ça, mais c'est du nonsense. C'est un fait.
Bien sûr. Mais allez, tous les matchs. Messieurs. Attends, Hervé. Yacine, on va terminer ce sujet avec toi.
Oui, mais pas en pion neuf. Pour moi aujourd'hui. On va terminer avec toi. Celui qui est en pole position, on parle beaucoup, mais c'est Wissam Ben Yedder.
Ah, j'attendais ce nom-là.
C'est Wissam Ben Yedder qui a toutes les caractéristiques.
Là, il y a de la maturité.
Ah, bien sûr. C'est le profil à Agüero.
C'est complet, il y a de la maturité, c'est du
bon neuf. Il joue très bien la tête malgré sa petite taille.
C'est la maturité.
C'est super joueur, je pense. Ben Yedder mérite vraiment sa chance en tant qu'avant-centre dans cette équipe de France.
Bon, allez, messieurs, on clôt le sujet sur. C'est toujours polémique. Hein. Dès qu'on dit numéro 9 équipe de France, là, c'est. C'est prêt à exploser. Et encore, du coup, vous avez remarqué que j'ai dit direct, Karim Benzema, on le met de côté. On n'en parle pas. Voilà, quand on parle d'autre chose.
Benzema.
Allez, on prend maintenant la direction des terrains de golf. Pas pour parler du sport en lui-même, hein, mais de quelques entraîneurs qui attendent un coup de fil de certains dirigeants de club. C'est la victoire.
Time Sport, la victoire.
Et oui, parce qu'il y a du monde de libre sur le marché des entraîneurs. Unai Emery, Mauricio Pochettino, Blanc, Yacine Bouali, le grand tacticien Yacine Bouali.
Moi, si je prends le Real ou le Barça.
C'est ah, non, ça va, il a des choix. Ça va,
Est-ce que tu vas au Barça, tu prends Benzema avec toi.
Ah, c'est ouf, ça. Ah. C'est
Benzema et Mahrez.
D'ailleurs, c'est le coéquipier idéal pour Lionel Messi.
Ah, pourquoi pas.
Ben oui, bon, messieurs, hein,
alors, d'Emery, de Pochettino, de Blanc, de tous ces entraîneurs-là, mais c'est vrai qu'il y a ces noms-là qui ressortent en premier, qui trouvera du travail en premier, selon vous? On parle, j'ai cru lire quelque part, par exemple, Blanc à Valence.
Je suis un peu sceptique pour Blanc à Valence. Autant, ça peut être un bon challenge, puisque Valence, c'est quand même une équipe, l'une des 5 meilleures équipes de Liga. Après, c'est un contexte très particulier. C'est une équipe... assez sulfureuse, avec un public assez exigeant, ils vont pas lui pardonner beaucoup de choses. Après, je pense que Laurent Blanc, actuellement, il...
Sulfureuse, tu veux dire beaucoup d'autres choses, hein.
C'est une équipe, c'est un club qui
est très exigeant envers son entraîneur et ses joueurs.
Sulfureuse, c'est qu'il y a...
Tu vois, t'as compris ce que je voulais dire. Voilà. C'est un club, voilà, qui, historiquement, et sur les 10 dernières années, qui a une tendance un peu à l'instabilité. C'est qu'il y a beaucoup de instabilité au niveau
Ils le vivent sur le plan du résultat.
Au niveau des dirigeants. L'année dernière, ils avaient un super entraîneur qui faisait du bon travail, Marcelino Toral, qu'ils ont viré parce qu'il était en bisbille avec le propriétaire Peter Lim, c'est un gars pour rien. Ils ont fait venir Albert Celades. Ça, la mayonnaise n'a pas forcément bien pris, on l'a vu sur les résultats, puisque Valence, il fait une saison assez décevante en Liga.
En Liga.
Donc, je reste un peu mitigé. Par contre, Unai Emery, moi, je le verrais bien au Betis. Le Betis a viré.
Donc dans le rival.
Ah, clairement. Ce serait une très grande trahison.
Oui, ce serait une trahison. Mais après, bon, ce serait pas la première. Mais en tout cas,
chez Emery, attends, il y a eu un tacle là. Comment ça, ce serait pas la première?
Bah, il serait pas le premier entraîneur à aller chez.
Ah, c'est pas envers Emery.
La concurrence. Moi, depuis que j'ai vu Sarri à la Juve, il y a plus un qui m'étonnera.
Donc voilà. Donc,
mais là, vous avez parlé d'Emery, vous avez parlé de Blanc.
Mais est-ce que le plus bankable, c'est pas le troisième?
Pochettino, mais pas forcément.
C'est le meilleur entraîneur aujourd'hui.
Parce qu'il a quoi? Il a juste une finale de Ligue des Champions avec Tottenham. Le problème, c'est qu'il a que ça, justement. Si on regarde les trois, c'est soit Blanc, soit Emery, en termes de palmarès. Et le truc, c'est que malheureusement, Blanc, son image est ternie par l'histoire du PSG.
Emery, par l'histoire du PSG, Blanc, avec tout ce qu'elle a gagné au PSG.
Non, bien sûr.
Par son chèque.
D'accord. Non, mais
par le chèque de 20 millions d'euros.
Par la valise. Non, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est avec ce qui s'est passé entre Aurier et lui, la crédibilité d'entraîneur, les insultes, les machins. Je suis désolé, ça. Bien sûr que oui. Au PSG, tout le monde. Non.
Non, le président.
Au PSG. Malheureusement, il n'avait pas sa place de teneur de vestiaire. C'était Ibrahimovic, et ça, on le sait. Et le problème, c'est que s'il y a des gens qui veulent recruter des entraîneurs, ils voudront des entraîneurs de poids.
Blanc,
et on sait que Laurent Blanc est un bon entraîneur, mais ce n'est pas un entraîneur qui réunit, qui tient le vestiaire. Mais et ça peut lui poser problème. Emery, un bon palmarès en Europa League.
Emery serait un peu une image un peu de loser sur les dernières années.
Il y a eu PSG, puis Arsenal. Est-ce qu'il a quand même pas mal perdu?
Moi, je pense que Emery, pour le coup, lui, il a vraiment vu sa réputation.
Mais par rapport à quoi? Mais quand même, il a trois Europa League.
C'est vrai. Emery
restera toujours le coach de la remontada, les gars.
Non, mais ça restera. Après, quand on sait que c'est Thiago Silva qui a fait ça, c'est différent.
Moi, je suis d'accord. En fait, t'as trois profils.
Mais Pochettino, il est encore, comment dire, encore neuf, si je peux dire. C'est, il a pas encore fait.
Attends. Ouais, mais il a quand même presque une décennie de coaching.
Il a été
à
l'Espagne, en Angleterre.
Oui, mais c'est pas ça. C'est Tottenham qui le met en avant. Les gars, c'est
Il avait une quinzaine, voire une vingtaine de propositions. Il attend le bon moment.
Il attend
le Il a un projet dans sa tête.
Mais le projet, c'est un bon club. Et malheureusement, les 15 clubs du Sénégal, personne ne veut le prendre.
Et la Ligue Céleste. Regardez, je sais que c'est
exactement.
Ah, pour moi, j'aimerais beaucoup. Pour moi, il a le profil complètement pour devenir le sélectionneur
au PSG.
De la Louis Célesté. Mais non, est-ce que la AFA, la Fédération Argentine, va lui donner les clés?
Arrête.
C'est faux. Je pense que justement,
je pense que justement,
la sélection argentine a besoin d'un leader charismatique, d'un mec avec vraiment une idée de jeu vraiment bien définie. Je pense que Pochettino,
pour moi, serait l'un des hommes idéals avec Marcelo Gallardo à la tête de la sélection de Bissau.
Un retour, une arrivée de Gallardo. Ah oui, Gallardo.
Le truc
de Gallardo, mes amis, c'est que s'il prend l'Albi Céleste, il refonde le football argentin, mais des poussins jusqu'à l'équipe nationale. Et ça peut être très grand.
C'est ce qu'il demande. C'est pour ça qu'il n'a pas pris.
Est-ce que ça aiderait peut-être pas Messi justement à gagner?
Ça aiderait probablement
avec l'Argentine.
Bon, messieurs, merci. On se quitte le temps d'une courte page. Les deux. Une courte page publicitaire, une courte plage publicitaire, vu qu'il veut vous. À tout de suite sur Beurre FM avec
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman.
Vous êtes toujours à l'écoute de Time Sport sur Beurre FM avec Hervé, Anas, Mickaël et Yacine autour de moi qui ne suis pas, toujours pas, j'ai toujours pas changé, je ne suis toujours pas Bilal Nenman, je suis Simon Balachev, je vous l'assure. Mais nos amis, en tout cas,
Balachev.
Tu le dis, exactement. Et là, tous nos amis ce soir sont là, tout chaud bouillant pour vous accompagner jusqu'à 20h. Et nous, on file tout de suite de l'autre côté des Alpes pour se donner faim un petit peu, parce que là, j'avoue que je dirais pas non, une pizza, je sais pas vous, mais moi oui. Mais surtout pour faire un point sur le calcio. Allez, c'est les duels.
Time Sport. Le duel.
La Lazio chute, messieurs, et la Juve s'envole. La Juventus qui emporte, qui prend le derby de Turin face au Torino. 4-1, des buts de Dybala, Cuadrado, CR7. Notre ami Cristiano Ronaldo toujours là. Hein, et Gigi contre son camp pour la Juve. Et un but de Belotti quand même, faut le dire, il marque presque à tous les matchs, l'ami Belotti au Torino est quand même très performant ce joueur. Donc 4-1 pour les Juventini. C'est Juventini au pluriel, hein, c'est ça. Et du côté de la Lazio, du Stade Olympique, eh bien la Lazio a coulé contre Milan 0-3 avec Kalianoglu, Ibra encore une fois sur penalty et Rebic pour Milan. Il reste 8 journées et désormais 7 points d'écart entre les deux. La Juve à 75, la Lazio à 68. Est-ce que c'est fait, messieurs?
Ouais, c'est fini. C'est fini. La semaine passée, RVDB il était en face de moi, commençait à parler, il y en a souci, j'étais là, la Lazio et tout ça. Je leur ai dit, la Lazio, elle va couler. Et la Juventus, elle va aller, comme d'habitude, gagner son titre. Et d'ailleurs.
C'est dommage. Bah, on
c'est
y a
dommage.
Cru à un moment.
C'est pas dommage, c'est pas le même niveau, justement.
La Lazio n'était pas, pas taillée pour.
En fait, cette année, c'était la seule année où, justement, la Juve avait un peu de difficulté par rapport au reste.
Mais alors, attends, j'entends, la Lazio n'était pas taillée pour affronter cette Juve. Mais qui est taillé pour affronter cette Juve? La Lazio cette année, c'est que 4 défaites, messieurs. C'est rien du tout, c'est une super saison.
La Juve fait toujours la diff. Au final, on se rappelle aussi du schéma. Il y avait un peu le même schéma avec la Roma à l'époque de Rudy Garcia.
Contre Naples.
Ouais, ou Naples après, c'est compliqué. Il faut être irréprochable du début à la fin. Et la Juve, même quand elle est moins bien, t'as toujours un joueur qui va faire la diff et qui va ramener les 3 points. Et c'est ce qui a manqué à la Lazio, ce qui a manqué à Naples, ce qui a manqué à la Roma.
Après, faut pas oublier qu'ils ont Cristiano Ronaldo aussi à la Juventus, donc ça les aide
même avant qu'il arrive, c'est la même chose,
évidemment,
même
mais ça les aide encore
ça
plus.
Se répète.
Je dirais que je pense que je vais pas être catégorique en disant que c'est cuit pour la Lazio. Il y a 7 points, il y a une confrontation directe Juve-Lazio dans quelques semaines. Moi, je trouve que la Lazio elle tire un peu la langue. J'ai un peu l'impression, j'espère me tromper, que cette équipe était peut-être un peu en sur-régime et non, depuis la reprise post-Covid. Elle a beaucoup de mal. Elle avait déjà remporté 2 victoires in extremis lors des dernières journées. Là, contre le Milan, elle est complètement passée à côté. J'ai regardé le match et le Milan aurait pu gagner 5-0.
Avec un grand menace.
Théo Hernandez, merci pour la publicité, a loupé 2 incroyables face à face. Je pense que cette équipe de la Lazio, entraînée par Simone Inzaghi, elle tire un peu la langue. Maintenant, il reste 8 journées. Tu m'as dit, Simon, après. Je pense que. Allez, je dirais que si la Lazio fait une contre-performance dans les matchs à venir, ce sera mort.
Mais ça, déjà,
pour l'instant, je pense qu'ils tiennent un fil. Ils tiennent vraiment un fil.
L'écart est déjà fait. Ils étaient à un point, c'était juste. Là, il y a la 7.
Ouais, est-ce que ça fait pas un peu penser au cyclisme, ça? La Juve, c'est cette espèce de maillot jaune comme il y a à chaque fois, ultra puissant. Et qui voilà, une fois qu'il a pris cette, c'est pour ça que j'aime le vélo aussi. Une fois que la Juve.
On parle de cyclisme avec la Juve d'il y a quelques années.
Là, il y a des médecins. Non, allez, attention, Yacine, pas de médisance. Non, mais c'est vrai, cette Juve, à chaque fois qu'elle distance, qu'elle met ce petit écart avec ses dauphins, c'est fini, c'est impossible à rattraper.
Ouais. Mais c'est juste préciser, Ronaldo, Cristiano, il rentrait dans l'histoire.
Ah bah oui, évidemment.
Il a marqué son
25e but
avec la Juve. Ouais. Donc il a inscrit dans les tous les championnats
anglais,
où il a joué,
espagnol,
chaque saison, plus de 25 buts.
Et italien.
Et ça, c'est phénoménal.
Très grand joueur de l'éternel. Très, très grand joueur.
Il y a une équipe, il y a une équipe qui a raté le coche, là. C'est l'Inter de Milan, ouais. L'Inter de Milan, ouais. Qui perd face à je vais retrouver qui perd face Bologne. À Bologne, face Bologne, à Bologne, un but à deux chez eux en plus. L'Inter qui du coup reste à 4 points de la Lazio, qui pouvait prendre un ticket direct pour la Ligue
en
des
plus,
Champions.
C'est un match que j'ai regardé aussi qu'ils auraient pu remporter. Lautaro Martinez et Lukaku ont énormément croqué la feuille de match en première mi-temps surtout. En deuxième mi-temps, les débats sont un peu rééquilibrés sous la houlette de Sinisa Mihajlovic. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'équipes qui depuis la reprise sont un peu en train de flancher. Je sais pas si c'est physique, je sais pas si c'est dans les têtes.
La Roma trois défaites d'affilée.
Mais,
la Roma.
On parlait de la Lazio, il y a l'Inter, il y a la Roma, il y a juste la Talenta et il y a juste la Talenta et la Juve
depuis la reprise.
Qui reste sur leur.
Ça, c'est surprenant la Talenta. Hein.
Qui reste sur leur rythme de croisière.
On avait l'impression, Mickaël, la Talenta.
On avait l'impression justement qu'ils étaient en sur-régime, que tout leur réussissait et on se disait avec le coronavirus et la trêve forcée que ça allait s'épuiser, mais en fait non, il continue, ouais. C'est impressionnant.
Et là,
c'est hallucinant.
Ouais, mais il y a aussi le retour gagnant du Milan. Il faut pas les enterrer. Il y a 8 jours, il reste 8 journées. Il y a 24 points à jouer, donc ils ont une carte à peut-être ils peuvent jouer les troubles faites et les voir jouer contre la Roma de cette façon. Franchement,
contre la Lazio, la Roma, elle a perdu contre Naples dans un duel direct pour l'Europa League.
Ouais. Et mais il faut pas oublier Naples aussi, hein. Il faut pas enterrer Naples.
Non, ils sont là, ils sont cinquième, voilà, bien calés.
Donc après 24 points, les écarts ils sont serrés.
Mais non, les à propos des Rossoneri, à propos de Milan.
Pour
les places européennes à partir de la troisième place.
Non, c'est faux. Tu prends l'Atalanta à 63 points, le Milan est 7e, on a 46. Il y a 17 points d'écart. Tu vas pas me dire que le Milan va rattraper l'Atalanta. Il y a déjà un sacré gap qui a déjà été créé.
Il y a un écart trop grand.
Oui. Le Milan part de trop loin, le Milan s'est réveillé trop tardivement.
Le Milan part de très bien, de très loin. Le Milan s'est réveillé trop tard. Le Milan ne se serait pas réveillé à partir de l'arrivée d'un grand viking brun avec une queue de cheval et un bouc. Il y a quand même un Milan avant et après le retour
de
Ibra.
C'est clair, il y a peut-être un effet domino à y voir.
Mais est-ce que c'est suffisant
pour Non, peut-être pas. Mais en tout cas, il a su les replacer. Avant l'arrivée de d'Ibrahimovic, Milan, c'est seconde partie de tableau.
La 5e, la 6e place. Mais
c'est déjà quelque chose.
Quand tu t'appelles le Milan AC,
c'est ce que j'allais dire.
Ça fait combien de temps que le Milan AC et n'est plus le Milan AC?
Exactement, ça fait quand même 5-6 saisons que le Milan AC est quand même sur le déclin. Voilà.
Un peu plus.
Tu prends les Milan, tu prends Arsenal, tu prends Manchester United, ce sont des grandes mastodontes du football européen sur les dernières années, mais force est de constater que ces équipes-là, elles sont un peu en phase un peu descendante, elles ont du mal un peu à retrouver leur lustre d'antan. Et les Milan, on le voit, ils ont viré leur dernier entraîneur. Là, il y a Stefano Pioli qui a pris l'équipe en cours de saison, mais qui au début, pendant l'exercice 2019-2020 était sacrément contesté. Donc pour moi, le Milan, comme je te le disais tout à l'heure, il est en train de revenir en grâce, mais je les vois pas à même d'aller chercher une place qualificative pour la Ligue des Champions.
En tout cas, ils vont la jouer jusqu'au bout, parce qu'ils ont pas intérêt à ne pas jouer une compétition.
Et puis c'est du budget en plus, hein, quand tu t'accroches un titre européen. C'est pas rien.
On voit la masse salariale du club. Et on se pose des questions. Ça va leur créer énormément de problèmes. Est-ce qu'ils vont se remettre? C'est un grand point d'interrogation.
Disons qu'une non-qualification en Ligue des Champions, ce qui est quasiment acté, va pas aider le club à avoir la manne financière des.
Allez, mais aujourd'hui ils sont pas encore qualifiés pour l'Europa League.
On clôt cette page.
Merci Anas.
Toujours de l'argent.
Yacine, on clôt cette page calcio par un petit mot sur Franck Ribéry qui s'est fait cambrioler à son retour du match contre Parme, mais qui semble avoir des envies d'ailleurs. Partir aussi vite de Florence, c'est pas un peu dommage?
Ouais, après.
Mais pour aller où aussi?
Après, quand le phénomène de vol des résidences de joueurs aujourd'hui, c'est devenu un phénomène vraiment. On va en parler, Riyad Mahrez qui s'est fait cambrioler avec les réseaux sociaux. Les joueurs donnent leur adresse, hein. Ils sont où?
Ouais, sur tous les réseaux sociaux, ils montrent ce qu'ils ont, machin, etc. Et ça donne envie aux gens de voler.
C'est ça. Il y a des joueurs qui n'ont jamais été cambriolés. De grands joueurs n'ont jamais été cambriolés.
Peut-être parce qu'ils payent.
Bon, allez, on finit cette émission dans les paddocks. Ce week-end, c'était le Grand Prix d'Autriche. C'est le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Grand Prix d'Autriche, le premier de cette saison 2020, du coup de championnat du monde de Formule 1, remporté aux grandes surprises par une Mercedes, celle en l'occurrence de Valtteri Bottas, ça c'est un peu plus la surprise quand même, qui devance donc la Ferrari. Oh, quelle surprise, la Ferrari termine seconde de Charles Leclerc, on commence à être un petit peu plus habitué, troisième Lando Norris avec sa McLaren Renault et le grand Lewis Hamilton qui finit quatrième au pied du podium. Donc, on précisera que nos Français, Pierre Gasly termine septième et Esteban Ocon termine huitième. Alors, Mercedes premier, c'est pas une surprise, mais Valtteri Bottas, oui, qu'est-ce que t'en penses, Hervé?
Valtteri Bottas, il a toujours l'habitude de bien commencer. La saison dernière, il avait déjà remporté le Grand Prix d'Australie. Et on a vu que au fur et à mesure que la saison avançait, il s'est fait distancer par Lewis Hamilton. Pour moi, le vrai enseignement de cette course, de ce Grand Prix d'Autriche, c'est la Ferrari qui est complètement larguée.
À ce point-là.
Oui, la Ferrari, en termes de potentiel, en termes de performance, elle est un peu en régression comparée à la saison dernière. Charles Leclerc termine deuxième parce qu'il bénéficie des pannes mécaniques, de la safety car, de la pénalité infligée à Lewis Hamilton qui a reçu une pénalité de 5 secondes pour avoir provoqué l'accident de Alexandre Albon sur Red Bull.
Donc non. Et Vettel, l'autre Ferrari, termine dixième.
Voilà, Vettel, il termine dixième. Il a été à la rue pendant tout le week-end. Voilà.
Est-ce que la Ferrari n'a pas été victime du Covid-19?
Je sais pas, mais déjà durant les
d'Italie en plus.
Durant les essais.
Là, on est en Autriche.
Durant les essais d'avant-saison à Barcelone, la Ferrari était déjà en retrait par rapport à Mercedes. Moi, honnêtement,
je crois qu'elle a besoin d'un peu de chloroquine.
Oui, peut-être si tu veux, mais pour moi à l'heure actuelle, je vois pas qui pourrait empêcher Lewis Hamilton de glaner un septième titre. Pour moi, Bottas, c'est le lieutenant d'Hamilton. Il va gagner quelques courses parce qu'il bénéficie de la meilleure monoplace du paddock, il bénéficie de la meilleure voiture du paddock, tant au niveau moteur qu'au niveau châssis. Mais pour moi, je vois pas en lui un rival capable d'empêcher Hamilton de filer vers un nouveau titre mondial.
Donc faux pas, un simple faux pas pour Lewis Hamilton. On dit quintuple, sextuple.
Il est sextuple,
attends,
il en est sextuple, hein. Champion du monde.
Sextuple champion du monde.
Il approche à Padjian, le record d'Ayrton Senna.
De Michael Schumacher.
Et je pense qu'il y a, je me rappelle plus quel pilote qui avait déclaré, c'est dommage que au jour d'aujourd'hui sur la Formule 1, sur le circuit, que Lewis Hamilton gagne 40 millions d'euros par
année. Romain Grosjean, pilote français As.
Et les autres, ils sont à 150 000, 200 000 euros.
Ouais, bon, je pense que Romain Grosjean, il a pas de mal à finir ses fins de mois. Donc, je pense que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Je pense que Romain Grosjean, il devrait davantage se focaliser sur son pilotage et éviter les sorties de route plutôt que de critiquer Lewis Hamilton. Oui, c'est vrai, Lewis Hamilton gagne.
RVDB renvoie un message.
Il n'avait pas encore été méchant aujourd'hui, là. Là, il a mordu.
Voilà, Lewis Hamilton, lui, il gagne 44 millions d'euros par an.
Mais c'est justifié, c'est ce que tu veux dire, en gros?
Je sais pas si c'est justifié ou pas, mais voilà, il est sexy, champion du monde, c'est le fer de lance de la Formule 1, c'est le pilote charismatique des paddocks. Voilà, je pense qu'aujourd'hui,
du coup, c'est justifié pour.
Bah oui. S'il y a bien quelqu'un à qui tu dois donner un.
C'est lui en tout cas et pas.
Voilà, exactement. Tu m'as compris.
L'argent qu'il lui est donné, ça tombe pas du ciel. Pourquoi pas rajouter quelques milliers d'euros à Grosjean?
Comment?
Rajouter quelques milliers d'euros à Grosjean parce que la
peut-être que si Romain Grosjean était un bon pilote, peut-être qu'il serait dans une meilleure écurie. Et peut-être que s'il serait dans une meilleure écurie, il négocierait un peut-être un meilleur contrat. Là, à l'heure actuelle, il est chez As Ferrari, qui comme la maison mère est complètement largué en ce début de saison. Faudra voir si au fur et à mesure de cet été, si les performances de la monoplace s'améliorent.
Bien, merci, un grand merci à vous quatre, messieurs, merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de BRFM d'avoir suivi Time Sport. Merci, je le redis, à l'équipe de ce soir, Hervé, Anas, Michael et Yacine, à notre réalisateur Yanis, ainsi que l'ensemble de l'équipe TimeSport, tous les gens qui sont derrière, il y en a, on les remercie. Et moi aussi, je vous remercie, mes amis, je vous remercie tous. Allez, TimeSport vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h, 20h. Bonne soirée à tous sur Beurre FM.
Retrouvez TimeSport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.